Eh ben, ça a failli pas arriver, mais finalement, c'est là. Guillaume, on te retrouve pour ta chronique et à laquelle on va poser la question rituelle. Guillaume, quelle est donc la position du musicien au sein des rapports de production culturelle?
Alors, aujourd'hui, pour répondre à ta question, Pierre, je vais vous parler d'un groupe assez connu, même assez, pour pas dire très connu. Et en fait, si j'aborde The Human League, c'est que en fait ils ont été un groupe fort intéressant au moment de où ils ont émergé, donc au début des années 80, puisqu'à la fois ils ont réussi à développer une musique assez avant-gardiste, qui développait un énorme travail sonore sur les synthétiseurs, sur les bandes enregistrées. Il était complètement issu du courant un peu avant-gardiste industriel tel que Kraftwerk ou Cabaret Voltaire. Et en même temps, ils ont parallèlement évolué. Enfin, on peut le critiquer leur évolution vers une pop beaucoup plus abordable, beaucoup plus commerciale, certains diront. Et qui a réussi en fait à faire percevoir à un grand public, hein, parce qu'ils ont connu des tubes énormes, ils ont vendu des millions de disques, des sonorités qui détonnaient vraiment pour l'époque. Donc The Human League en fait est créé en 77 par deux informaticiens, Martin Ware et Ian Craig Marsh. Au début ils montent un petit groupe, ça s'appelle Dread Doctor, et c'est très expérimental, très 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 bidouille sur les sons. Et en fait en 78 plutôt, ils rencontrent un brancardier qui s'appelle Philip Hockey, et toujours de Sheffield, et ils sympathisent et tout, et lui, comme il chante pas mal, il monte The Human League en référence au nom d'un jeu vidéo de l'époque. C'est comme ça. Et donc il commence à bidouiller les sons un peu de ces deux informaticiens avec la voix et les tendances un peu plus pop, plus ouvertes, plus soft, plus mélodieuses des aspirations de ce chanteur Philip Hockey. Et donc ça donne justement donc ce mariage réussi entre un long travail de studio qu'il y a dans les premiers albums, hein, les deux premiers, notamment Travelog qui est très intéressant, et des sons et des paroles qui sont un peu plus sentimentales. Ça parle des amours déçus et tout ça. Donc c'est vraiment assez étrange, et c'est surtout quelque chose qui fonctionne énormément, puisque il y a toute une série de hits viennent illustrer le succès de cette entreprise. Malheureusement, les deux fondateurs originaux, les deux informaticiens, scissionnent en 82-83, parce que justement ils reprochent à OK d'orienter le groupe dans une direction trop commerciale. Donc voilà pour la petite histoire de Even 17. Après, donc ils forment Even 17. Et mais c'est beaucoup moins intéressant. Et en fait, c'est juste pour et la même chose un peu pour Human League. Je trouve que la seconde période, évidemment, quand ils tombent dans les travers de la pop commerciale, c'est moins réussissant. Malgré tout, la chanson qu'on va entendre, pour illustrer tout mon propos, est issue quand même de la deuxième période, enfin du tout début, puisque c'est le fameux album Dair, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, dont est extrait l'extrait qu'on va entendre. Donc c'est non pas Don't Want to Touch Me, bien connu, mais Seconds, qui justement est une bonne illustration des capacités à la fois du travail sonore de ce groupe et en même temps de ses orientations pop très 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 accessibles. Voilà.
It took seconds of your time to take his life.